Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Si je m'appelais Patrick Bruel, je chanterais probablement Casser la voix, parce que la voix est encore un peu cassée, mais, oui. Mais ça se tasse tranquillement pas trop vite. Hey, ça va avoir été une bonne laryngite, franchement, là. Bienvenue, mesdames, messieurs, à Peu contenir des infos. Salut Sébastien, comment vas-tu?
Salut, oui, très bien. Très heureux de t'accompagner dans tout ce cheminement de semaine en semaine. Quelle épreuve que tu vis, Simon.
Oui, laryngite. La voix qui a mangé. Ouais, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un problème avec la voix. Faut dire que quand tu animes à la radio, j'ai été plusieurs années où j'ai pratiquement plus animé à la radio du temps où je travaillais beaucoup dans les bureaux. Maintenant, je fais un petit peu plus de voix. Pas de voice-over nécessairement, mais tu sais, l'animation, ça fait qu'on dirait que je sollicite la gorge, puis quand je pogne un rhume ou une affaire la même, ben ça pogne, ça se garoche à la place où ça devrait pas se garocher, ben coudonc, on passe au travers. On est de bonne humeur encore cette semaine.
Absolument.
Et on a des sujets très intéressants. On va consacrer, entre autres choses, un bloc complet tantôt, le deuxième, là, celui qui va venir après la pause du quart d'heure. On va parler de maladies. On va parler, entre autres, du scorbut. Ça revient, ça, le scorbut?
Le scorbut, que j'en entendais parler, moi, à l'école primaire, comme quoi les Christophe Colomb de ce monde là attrapaient ça en bateau. C'est ça. Ben oui, c'est revenu. Mais je vous rassure tout de suite, là, c'est pas si dangereux.
OK, ouais, on va parler de la rougeole également parce qu'il y a une épidémie de rougeole actuellement, enfin aux États-Unis là, ça arrête pas. Alors on va parler de ça, c'est quoi la rougeole? On aura l'occasion de parler un petit peu plus tard du mariage. Hey, le mariage.
Est-ce que ça existe encore les mariages durables? Ben ouais. Oui, je pense que oui, mais aussi les trucs et les principales raisons de divorce et on va parler des relations en général là, même si les gens seraient pas mariés mais qui veulent tous les bons trucs. Pour que ce soit sain, heureux et durable, la relation, ben pourquoi pas?
OK, tu vas avoir un quiz aussi à la fin de l'émission. Veux-tu nous révéler, nous divulguer le sujet? J'aurai pas le temps de chercher de toute façon.
T'auras pas le temps de chercher. Ça va parler de couleurs. Le thème sera les couleurs aujourd'hui.
Les couleurs. OK. Ben parfait. C'est vraiment strictement couleurs ou là, tu fais juste annoncer les couleurs du quiz puis ça pourrait être d'autres choses que ça?
Ça va parler de couleurs. C'est que les choix de réponses seront souvent des choix de couleurs.
Ah, OK, ouais, parfait. Ouais. OK, alors on sera là pour le quatrième et dernier quart d'heure de l'émission pour ce quiz. On débute avec quelque chose de bien intéressant. La reine rouge de Palenque.
Oui, toi qui aimes l'histoire, l'archéologie, ouais. Simon, ouais. Je vais te faire plaisir aujourd'hui avec comment on a découvert la tombe de la reine rouge qui est emmurée dans une pyramide de site maya du Palenque. OK. Et puis oui, ça a été mis au jour en 1994. Ce tombeau de la Reine Rouge de Palenque, la tombe qui est une des découvertes archéologiques majeures du Mexique d'ailleurs, dans toute l'histoire. Et c'est parce qu'il y a eu un documentaire qui a été réalisé sous l'égide de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire du Mexique. Très beau documentaire que vous allez pouvoir aller voir sur YouTube si ça vous intéresse. Je vous donnerai là, les détails. Et ça nous emmène tout droit dans le tombeau de la Reine Rouge de Palenque qui a été scellé en 672, l'année de notre ère. Et dans une pyramide de la cité Maya. Et dans le documentaire, vous allez pouvoir entendre plusieurs personnes qui racontent la manière dont cette chambre funéraire qui est exceptionnelle a été mise à jour sur ce site maya du Chiapas. Et on évoque aussi la restauration qu'on a fait. Hein. Et c'est tout un trousseau funéraire. Les experts attribuent à ça Ixiquitzacab Aja, l'épouse du plus important souverain maya qui a régné sur Palenque. Kinish Janab Pakal, dit Pakal le Grand. Alors, ça serait le tombeau de son épouse. C'est elle qu'on appelle la Reine Rouge. Et puis, les claustrophobes, là, peut-être s'abstenir d'écouter le documentaire. C'est quelque chose.
Ah ouais, hein?
Ouais, ça fait sentir pris à l'étroit. Hein? Mais documentaire qui a été réalisé par Rafael Morales Orozco dans le cadre de la série Relatando Historias, ce qui veut dire récit d'histoire. Ça a été produit par l'INAH et diffusé sur YouTube. Alors, c'est possible de le visionner et d'activer des sous-titres en français. Okay. Hein, bien sûr, là, il n'est pas en français, il est en espagnol, mais vous pouvez le voir. Et dans ce voyage-là, on est guidé par l'archéologue Arnoldo González Cruz, qui est directeur du projet archéologique de Palenque depuis 1989. Il faisait donc partie de l'équipe qui a découvert le fameux tombeau de la Reine Rouge en 1994. C'était dans la pyramide du Temple 13. qui est situé juste à côté du temple des inscriptions dans lequel la sépulture de Pacal le Grand a été mise à jour en 1952. Alors, on croit que c'est bien, bel et bien sa femme. Et Arnoldo González Cruz explique comment l'entrée du tombeau a d'abord été identifiée dans les sous-sols de la pyramide, puis comment les archéologues ont pu pénétrer dans le complexe. C'est tellement difficile d'aller chercher des découvertes comme ça. Puis à l'intérieur, c'est une scène figée depuis 1300 ans qui a été découverte. Et un nouveau défi parce que la chambre contenait, à part les offrandes funéraires, le corps de deux individus sacrifiés, un important sarcophage monolithique de 2,40 m pour 1,18 m de large. C'est énorme, recouvert d'une dalle avec aucune inscription. Donc, c'est là, on pouvait pas savoir qui était à l'intérieur. Il faut regarder le film vraiment pour savoir comment les chercheurs s'y ont pris pour soulever la pierre au beau milieu de la nuit. Il y a plein de choses. Et ils étaient prêts à tout. Ils savaient qu'ils avaient découvert un tombeau vraiment exceptionnel à la fois. Et quand ils ont trouvé ça, c'était le rouge qui domine. C'était tout rouge. Ils avaient flairé l'odeur du cinabre. Alors, ils savaient que c'était ça, un minéral de couleur rouge intense qui était utilisé très rarement parce que c'est rare, justement. Alors, c'est rare qu'on en voyait. Et le sarcophage, dans le squelette était complètement recouvert de ça, du, le nom m'échappe encore, le cinabre. Et puis, le squelette en était plein. Les bioarchéologues ont reconstitué le corps de la défunte. Et puis, on l'appelle Reine Rouge à cause de ça, parce qu'elle était pleine de cinabre. Puis, on a dû l'asperger plusieurs fois au cours de plein de rituels destinés à la maintenir vivante, le cinabre étant par sa couleur assimilable au sang et donc à la vie. C'est pour qu'elle ait l'air vivante. J'imagine qu'on a envoyé cela comme ça. Mais le squelette est entièrement recouvert de ça jusqu'à imprégner les os. On y a vraiment mis du cinabre à grandeur. Puis l'archéologue évoque aussi les analyses qui ont été réalisées sur le squelette en laboratoire pour déterminer son identité. Et pour l'instant, c'est encore qu'une hypothèse que la Reine Rouge était la femme du Pacal le Grand. Beaucoup de chercheurs se sont penchés sur le cas et il y a eu plusieurs théories, mais la plus plausible, c'est vraiment qu'il s'agit de l'épouse de Pacal le Grand et la mère de ses enfants à lui. Les deux ont régné sur Palenque. Puis il y en a qui ont envisagé que la défunte puisse être la mère ou la grand-mère de Pacal aussi. Mais il n'y a pas de correspondance ADN entre les corps enterrés dans les deux pyramides voisines. Donc, ça serait surprenant qu'ils fassent partie de la même famille.
Mais il y a une chose est certaine, c'est que ce soit ou pas la conjointe ou l'épouse de ce personnage dont tu parlais tout à l'heure, les risques sont assez faibles que ce soit, par exemple, une paysanne. Parce que me semble-t-il que dans ce genre de sépulture ou de monument funéraire, c'est pas n'importe qui là, qu'on enterrait là, dans une certaine mesure.
Non, c'est ça. Puis on va l'appeler la Reine Rouge quand même. Ça, elle va garder son nom, ça c'est sûr. Ouais. Puis ce qu'on sait d'elle, là, c'est qu'elle mesure 1,55 m, qu'elle était âgée d'à peu près 50 ans au moment de sa mort en 672 et qu'elle souffrait d'ostéoporose. Bon, c'est des choses qu'on sait. Et des analyses des isotopes du strontium qui étaient dans ses dents ont révélé qu'elle venait d'ailleurs. C'était une étrangère. Elle n'est pas originaire de Palenque, elle. Puis en ouvrant le sarcophage, les archéologues n'ont pas seulement découvert le squelette avec du cinabre. La statue de la défunte était aussi signalée par les vestiges de sa parure et de ses bijoux. Des vestiges qui étaient désarticulés, décousus. Il a fallu rassembler tout ça comme un casse-tête. Les éléments organiques qui n'ont pas résisté au temps, là, bien sûr, alors c'est toujours compliqué. Puis, il y a un dessinateur qui l'a expliqué, Constantino Armendáriz, qui s'est repris plusieurs fois pendant des décennies avant que les restaurateurs proposent un modèle qui soit à leurs yeux satisfaisant. Mais là, c'est très beau ce qu'ils ont fait. Et comme on peut le constater grâce à la reconstitution qui est exposée dans le pavillon, qui est consacré au musée du site archéologique de Palenque, bien, la Reine Rouge a été inhumée avec des objets de prix, une coiffe avec une centaine de tesselles, dont facite, un minéral proche du jade, de la jadéite, qui représente sans doute le dieu de la pluie, Shaak. Il y a un diadème, un collier de deux boucles d'oreilles, un masque constitué d'une centaine de tesselles aussi de malachite complété par de l'obsidienne et de la jadéite blanche pour former les yeux, puis une cape aussi décorée de plus de 170 petits disques de jadéite. On y a mis des beaux bijoux. Et puis, c'est tout un tableau. Et puis, grâce au travail des chercheurs, 1352 ans après son décès, bien la Reine Rouge, qui est considérée par les Mayas comme une divinité, est toujours aussi impressionnante. Donc, pour les amateurs de musées, si vous allez au Mexique, toujours moyen de passer ça, mais voilà notre petite histoire de cette découverte de la Reine Rouge de Palenque, qu'on croit être l'épouse de Pacal le Grand.
Intéressant, intéressant. Merci beaucoup, Sébastien. Je vous parle en 3 minutes à peu près d'un astéroïde assez gros. Là, quand même, la taille à peu près d'un building, si on veut, une 50aine de mètres de diamètre. Et il pourrait percuter la Lune, imaginez-vous donc. Et là, les scientifiques capoteraient, ils aimeraient ça. T'sais, je veux dire, c'est spécial un peu, là. Il s'appelle 2024 YR4. Et ce fameux astéroïde-là, c'est le télescope spatial James Webb. Tu connais, t'as entendu parler de ce télescope spatial, évidemment.
Ben oui, ça, c'est la grande avancée, là. C'est grâce au James Webb qu'on a les plus belles images jamais vues. On peut comprendre l'univers beaucoup plus. Il va y avoir des percées aussi dans les prochaines années grâce à James Webb.
Absolument. On l'a braqué il y a quelques mois de ça en direction de cet astéroïde, de ce corps céleste qui se dirige tranquillement, pas trop vite, à peu près dans notre coin de l'espace. Et on a écarté jusque-là les risques qu'il atteigne la Terre. Parce qu'à un moment donné, on était dans l'ordre d'à peu près 1% de chance qu'il frappe la Terre. On est monté même jusqu'à 3,21% de chances qui frappent la Terre, mais là, c'est retombé finalement grâce à James Webb, grâce à ce télescope. On s'est aperçu que les chances étaient maintenant presque nulles, à 0,0002%. Donc, autant dire que les chances sont à toute fin utile nulles qu'il frappe la Terre. Mais en revanche, les chances sont très élevées que cet astéroïde frappe la Lune ou aux alentours du 22 décembre 2032, on dit que les chances que cet astéroïde 2024 YR4 percute la Lune sont maintenant d'à peu près 2%.
Bon, c'est pas beaucoup. Puis tu disais que les scientifiques aimeraient ça que ça arrive?
Ben, ils aimeraient ça que ça arrive parce que ce serait la première fois dans l'histoire qu'on serait capable de voir ou d'observer un astéroïde qui frappe un corps céleste. Tu sais, avec un télescope et tout ça, c'est jamais arrivé. On sait que la Lune s'est fait frapper par des astéroïdes. Écoutez, on a juste à regarder les cratères qu'il y a sur la surface lunaire pour se rendre compte qu'elle a vraisemblablement, dans son histoire, été frappée à plusieurs reprises par des astéroïdes, des météores, tu sais, des trucs comme ceux-là, et probablement plusieurs fois. Mais ce serait la première fois où on verrait ça avec les yeux de l'être humain, on serait capable de l'observer avec justement nos yeux puis nos équipements, notre télescope dont on parlait tantôt, le James Webb. Alors, on surveillera ça au cours des prochains mois, des prochaines années. Ça a l'air que quelque part comme au mois de mai, on va faire encore une nouvelle pige, si vous me prêtez l'expression. On va encore surveiller les images de cet astéroïde, le 2024 YR4, dont on a établi à 92% les chances actuellement avec les mesures qu'on a faites. Là, on dit que c'est dans l'ordre de 92% que son diamètre serait de plus de 50 mètres. Dans un tout petit instant, dans le prochain bloc, on parle de maladie. On va parler en l'occurrence de la rougeole et du scorbut qui est apparemment revenu.
Peut contenir des infos.
On parle de maladie dans ce deuxième bloc de l'émission Peut contenir des infos. Je vous parlerai dans un instant de la rougeole. C'est quoi la rougeole? On vous raconte ça. D'abord, une maladie qu'on pensait, Jacques Cartier, tu sais, Champlain, je sais pas moi, ouais. Tu disais Christophe Colomb,
les choses comme ça, le scorbut.
Le scorbut? Ah,
ben
oui, ouais, hein?
Qui est revenu. Ben oui, c'est une maladie ancienne, mais bon, c'est en France, c'est dû à la précarité alimentaire que ça revient. Ben puis on pourra comprendre, on peut faire un parallèle avec les gens qui prenaient les bateaux longtemps, là, dans le temps. Puis le scorbut avait vraiment l'air d'une maladie de conquérant. Hein? Il partait pour aller conquérir des terres, là, les grands explorateurs, puis il se ramassait avec le scorbut sur le bateau. C'est connu sur le nom aussi de la maladie du marin. Le scorbut, Donc, ça avait complètement disparu. Et puis, il y a une étude qui est parue dans The Lancet et il serait revenu après la pandémie de COVID, en même temps que l'inflation, puis une hausse de la précarité alimentaire. Puis là, on arrive avec un retour du scorbut. En 2023, faut dire qu'il y avait eu toute une inflation des prix des aliments. Là, on avait eu une première grosse vague. Ça avait monté comme de 15%. Et puis, les gens qui ont le scorbut, ben c'est des douleurs osseuses, faiblesse musculaire ou des segments des gencives, des symptômes qui ont bien connu, en tout cas les marins jusqu'au 19e siècle, pendant les longs mois de mer, là, c'est justement le fait qu'on n'avait pas d'accès à des produits frais comme des fruits et légumes. C'est une grosse carence en vitamine C. pas compliqué, le scorbut. Puis là, vu qu'on avait, on manquait ces aliments-là, ben, le corps humain en pâtissait un peu, puis la maladie avait quasiment disparu des pays industrialisés avec une meilleure conservation des aliments. C'est ça qui avait fait disparaître le scorbut. Puis, c'est réparu, ça réapparaît, mais c'est dans le cas d'une alimentation, là, quand c'est très peu varié. Donc, faut faire attention pour varier notre alimentation dans la vie. En cas de scorbut, ben c'est sûr que c'est plus grave comme c'était à l'époque, parce que maintenant, c'est facile de se trouver de la vitamine C. Donc, tout ce que ça prend, c'est une cure de vitamine C. Pour les gens qui auraient le scorbut aujourd'hui, un régime alimentaire, tu sais, pommes de terre, agrumes, épinards, le tour est joué. Là. Donc, c'est ça.
Okay.
C'est une méga carence en vitamine C, le scorbut. Puis, il y a quelques alertes qui ont soulevé des inquiétudes pour la résurgence du scorbut. En fait, il y avait une étude qui a été sortie en décembre dernier, 2024. C'est ça l'étude dont je te parle dans la revue de Lancet. Puis, il y a des pédiatres qui ont mené une enquête, qui ont analysé des cas de scorbut chez des enfants entre le 1er janvier 2015 et le 31 novembre 2023. Puis, résultat, bien, c'est 888 patients atteints de scorbut hospitalisés avec un âge moyen de 11 ans. Quand même!
Wow.
Donc, ça existe. Et il y a eu une hausse lente avant 2019, mais ça s'est accéléré avec la pandémie de COVID. Augmentation des hospitalisations, on estime à 34,5%. Puis les chercheurs ont aussi observé une augmentation de la malnutrition de 20%. Ça a confirmé le lien entre le scorbut puis le fait que les enfants se nourrissent moins bien. Il y a une dégradation de l'état nutritionnel et c'est la cause. Et ils ont pu faire un parallèle aussi avec l'escalade des prix alimentaires après la pandémie. Le fait que la bouffe coûte plus cher, mauvaise alimentation, carence en vitamine C, bien bonjour, bienvenue la carence. Alors, c'est ce qui est arrivé. Puis les gens, ben, pouvaient plus s'acheter des produits frais qui apportaient justement assez de cette fameuse vitamine. Les pédiatres ont recommandé une meilleure formation clinique pour les soignants pour qu'ils puissent détecter rapidement le scorbut par un examen sanguin aussi. Puis quand les enfants sont bébés, ben les parents sont plus vigilants, les produits cuisinés sont adaptés hein, pour les tout-petits, mais c'est quand ils grandissent, là, à un moment donné, c'est dur de leur faire manger des fruits et légumes. Donc, mais c'est important. Puis un pédiatre peut pas à lui seul avoir le rôle éducatif. Donc, on dit du côté de spécialistes que l'État devrait prendre les choses en main pour accompagner les familles. Les résultats mettent en évidence un problème de santé publique critique. Alors, ça exige une attention urgente de la part des sociétés occidentales modernes. Et puis, en dehors de la difficulté des ménages les plus pauvres pour avoir une alimentation équilibrée, il y a une spécialiste, Fabienne Cocher, qui constate une augmentation des consultations concernant les troubles de comportement alimentaire ces dernières années. Alors ça, c'est une hausse qui pourrait aussi faire expliquer un peu le problème. Et là, on dit qu'en France, en tout cas, on est confronté vraiment à une épidémie de scorbut présentement. Alors, go, vitamine C, go, faut en consommer partout. Et là, rendu là, les suppléments peuvent prendre aussi leur importance. Là. Mais on dit toujours que la vitamine C en supplément, c'est pas grand-chose. L'idéal, c'est l'alimentation. Aller chercher, là, comme je disais, des épinards, des choses, des légumes verts. Et puis, il y a plusieurs choses qui sont des très bonnes sources de vitamine C. C'est mieux assimilable par l'organisme. Alors, on va combattre le scorbut par les oranges.
C'est ça. Vous avez entendu parler récemment, et on en parle couramment même dans l'actualité, les fameux measles. T'as entendu parler de ça, hein? Measles aux États-Unis, il y a une épidémie de ça actuellement. C'est quoi? C'est la rougeole, la fameuse rougeole. C'est une maladie infectieuse. On pensait s'en être débarrassé de ça aussi. De fait, la rougeole, t'entendais plus même parler de ça là, depuis quelques années, mais malheureusement, pour différentes raisons, qu'on attribue essentiellement au manque de vaccination, la rougeole se répand actuellement à vitesse grand V chez nos voisins du Sud, aux États-Unis, évidemment. Mais ça arrive, tranquillement, pas trop vite, de voir des cas de rougeole apparaître chez nous, ici, au Canada. As-tu déjà eu la rougeole?
Je sais pas. Tu vois, ça sort de mon souvenir. Je sais pas. Je l'ai peut-être eu quand j'étais petit, une fois, mais je suis pas certain.
Ben c'est ça, hein. C'est que la rougeole, c'est une des premières maladies. On l'appelle d'ailleurs très souvent la première maladie parce que c'est une maladie qui est assez courante chez les enfants et elle atteint essentiellement les enfants à partir de l'âge de 5-6 mois ou à peu près jusque chez les jeunes adultes. C'est assez rarissime que des personnes de, on va dire, 50-60 ans soient atteintes de la rougeole. Et le problème, c'est que c'est une maladie qui peut entraîner des complications graves, particulièrement chez les enfants et les personnes qui ont un système immunitaire faible. On sait que quand on est affaibli, on peut pogner à peu près peut-être pas n'importe quoi, mais on a beaucoup de difficultés à combattre les virus et tout ça. Et des études indiquent que le virus de la rougeole, c'est une adaptation, en quelque sorte, de la peste bovine. C'est ça qui est drôle, c'est que la peste bovine, c'est une maladie qui est officiellement éradiquée de la planète depuis 2011. Ça fait pas si longtemps que ça. La peste bovine a été complètement éradiquée de la planète, mais faites à noter, cette maladie, donc la rougeole qui dérive chez l'humain de la peste bovine, elle fait résurgence, elle revient. C'est un peu singulier. C'est pas quelque chose qui existe depuis, enfin, dont on connaît l'existence, la rougeole, depuis tellement longtemps. Parce que quand on regarde dans l'Antiquité gréco-romaine, par exemple, ou l'Antiquité chinoise, dans les vieux textes, ça parlait pas de rougeole. Ça, c'est une maladie qu'on a vu apparaître, ou enfin, dont on commence à voir la mention dans des textes qui datent du 10e siècle, à peu près. C'est un médecin persan qui, dans son traité de médecine qu'il a rédigé en 910, un dénommé Rhazès, qui parle de cette maladie-là, la rougeole, et c'est les premières véritables traces ou véritables mentions qu'on fait de la rougeole au 10e siècle. On vous dit pas que ça existait pas avant, mais on s'était pas vraiment intéressé à ça, ou c'était pas très, très répandu avant ce temps-là. Il y a un autre médecin perse, Avicenne, un autre médecin, mais également philosophe, qui précise lui aussi, vers l'an 1000 à peu près, les différences entre rougeole et rubéole. Et donc, cette maladie là, dont on voit la résurgence actuellement aux États-Unis, la rougeole, c'est une maladie qui date à peu près, comme on le dit, là, du 10e siècle, grosso modo. Et rougeole, là, c'est un terme qui est connu ou qui dérive du vocable latin morbilli, qui dérive lui-même du morbus, donc qui signifie petite maladie. C'est un terme qui, à l'époque, englobait là, le fameux morbilli, là, qui englobait pas mal toutes les maladies éruptives, varicelle, variole, lèpre, scarlatine. On mettait tout ça dans le même panier. Du moment où il y avait des pustules là, ou des espèces de petits boutons qui apparaissaient, on disait « c'est la morbilli ». Grosso modo. Et à un moment donné, on a tellement tout assimilé ça à la même patente qu'on appelle encore aujourd'hui toutes ces maladies-là, on les appelle des maladies morbilliformes. Donc, elles ont toutes les mêmes caractéristiques de créer, si on veut, des espèces de rougeurs sur la peau, que ce soit justement la scarlatine, variole, lèpre et tout ça. Ce sont des maladies morbilliformes. On les met toutes dans le même panier, si on veut, mais ce sont des maladies distinctes, soit dit en passant. Symptômes, et je vais avancer très, très rapidement. Symptômes de la rougeole qui apparaissent entre 7 et 21 jours après l'infection par le virus de la rougeole. Les symptômes initiaux, ça ressemble d'une grippe. Grosso modo, la rougeole, quand ça starte, là, quand ça part, c'est la fièvre, c'est la toux, c'est l'écoulement nasal, les yeux rouges et larmoyants. Sur le coup, tu te dis, je suis en train de faire une grippe. Mais au fur et à mesure où ça progresse, il n'y a pas de symptômes cutanés encore. Et c'est de 3 à 7 jours après le début des premiers symptômes que là, commence à avoir des plaques rouges qui commencent à s'étendre sur le visage et sur le reste du corps, les bras, les jambes et tout ça. Et c'est une éruption qui va durer d'à peu près 4 à 7 jours et la plupart des gens se remettent de la rougeole généralement en 2 ou 3 semaines à peu près. Malheureusement, et c'est ça le pire, c'est que la rougeole, c'est quelque chose qui peut entraîner des complications. Et des sérieuses complications à part de ça. Ça peut tourner en infection de l'oreille, en pneumonie, en défaillance respiratoire, diarrhée, inflammation, enflure du cerveau, ce qu'on appelle une encéphalite. Et dans les pires cas, la mort, on a d'ailleurs vu apparaître au cours des dernières semaines ou des derniers mois des cas de mortalité de la rougeole aux États-Unis. Et pour ceux qui s'en sortent avec des séquelles, malheureusement, plus souvent qu'autrement, ce que ça va créer, ça va être la cécité, surdité, des lésions cérébrales, des troubles neurologiques. Donc, grosso modo, prenez pas ça à la légère. Si vos enfants ne sont pas vaccinés, la meilleure façon de se protéger de la rougeole, c'est la vaccination. c'est la vaccination. Les vaccins au Canada, on les donne très, très jeunes, on l'a dit tantôt. Dans la grande majorité des cas, soit on les reçoit à l'hôpital ou encore on les reçoit à la petite école. Donc, si vos enfants n'ont pas été vaccinés contre la rougeole, la meilleure chose à faire, c'est de se faire vacciner, grosso modo. Prenez pas ça à la légère, c'est ce que je voulais vous faire comprendre.
On combat le scorbut avec la vitamine C et la rougeole avec le vaccin.
Le vaccin, on se vaccine.
En tout cas, on prévient avec ça.
Ben c'est ça, c'est parce qu'il n'y a pas de médicament contre la rougeole.
C'est ça
qui est le pire. Tu peux prendre du Tylenol, par exemple, ou de l'aspirine, c'est pour combattre, par exemple, le mal de tête ou les affaires comme ça, mais il n'y a pas de sirop contre la rougeole. Tu peux pas même mettre de la calamine, ça rend pire la patente. Donc, la meilleure affaire pour s'en prémunir, c'est encore de se faire vacciner, c'est ce qu'on dit. Dans un instant, on va parler de... Attends un peu, on va parler du mariage.
Oui, puis des beaux mariages, heureux et sains, c'est ce qu'on souhaite à tous. On espère vous donner le goût de vous marier.
Grosso modo, et pour que ça dure, évidemment.
Oui.
OK.
Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
On y va maintenant avec notre troisième portion de « Peut contenir des infos » et nous allons vous parler du mariage.
Ah oui, le mariage sain et durable, c'est ce qu'on souhaite la plupart du temps. Et puis, c'est encore en parcourant différents magazines et je suis tombé encore sur un article que j'ai trouvé fort intéressant dans lafamille.life cette semaine. Puis, justement, il parlait de mariage, mais on sait qu'il y a des couples mariés qui divorcent beaucoup. Les divorces, c'est assez fréquent pour diverses raisons. Souvent, un des points qui revient beaucoup, là, c'est un partenaire qui lutte contre la dépendance. Ça crée des frictions, ça, dans les mariages.
Ah, ben oui.
Tu sais, quand t'en as un qui est dépendant, que ce soit à la drogue, que ce soit au jeu, tu sais, quand c'est rendu que les économies, là, pour la famille peuvent partir en fumée à n'importe quand, ça peut créer des chicanes, hein. Et puis, ça crée des disputes. Une raison aussi pourquoi les gens divorcent, c'est quand il y a trop de disputes. Peu importe la raison, là. À un moment donné, à force de se disputer, on dit, on serait peut-être mieux de divorcer et ça pourrait aider nos deux vies. Mais bon. Avec un peu de travail puis d'effort, là, c'est possible de transformer un mariage qui est devenu difficile en un mariage heureux à nouveau. Ou même si vous n'êtes pas marié là, et que vous avez des petits troubles dans la relation, ben pourquoi pas tenter des petits trucs pour ramener les bons côtés. Alors, premièrement, là, je voudrais qu'on regarde les principales raisons de divorce. Là, j'en ai nommé, tu sais, je nommais la dépendance. C'est assez clair, là. C'est impossible de maintenir une relation saine quand il y a plein de troubles émotionnels liés à des pertes de confiance aussi. On perd la confiance en son conjoint là, quand on a des problèmes de dépendance. Donc, travailler là-dessus, c'est très important pour préserver la vie en couple, là, mettre les dépendances de côté et faire des petits efforts pour pas se retrouver dans des grosses difficultés financières, par exemple, ou autres. Et puis, le manque de communication, ben ça aussi, là, c'est sûr, ça revient beaucoup. Les gens divorcent parce que dans un couple, ben il y en a un qui n'a pas dit ses besoins comme il faut. Où on l'a pas fait de façon efficace, il y a des malentendus, des rancunes qu'on accumule aussi, puis à un moment donné, ça sort trop en explosion, là. Donc, une fois que les fondements sont ruinés, une relation heureuse et saine ne peut pas continuer. Alors, ça prend de la communication. Une autre raison de divorce, c'est souvent des problèmes d'argent, juste parce qu'on est en désaccord sur les habitudes de dépenses, par exemple.
Mm-hmm.
Dans un couple, ça peut devenir un problème. Je sais pas si tu l'as vécu, toi, dans ton mariage.
Non, j'ai pas, non.
C'est super. Parce que c'est quand on a des dettes, par exemple, ou l'incapacité de payer des factures, ben ça peut créer un malaise dans la relation, puis des divisions aussi entre les partenaires parfois. Donc, c'est sûr que ça, c'est une des causes qui revient quand on demande aux gens les raisons des divorces. Puis, une que je suis sûr que tu peux deviner, là, c'est... Ouais.
L'adultère, j'imagine.
Ben oui, l'infidélité. Ça, c'est certain que c'est dur de passer à travers. Ben, il y en a des couples ouverts, hein, très gentils, des mariages ouverts, alliés, faites ce que vous voulez, mais c'est pas la majorité, hein.
C'est pas la norme, là, on va dire.
Non, c'est ça. Alors, ben, ça détruit complètement la confiance. Quand t'apprends que tu t'es fait tromper, c'est une des raisons les plus courantes pour lesquelles on divorce, là, bien sûr. C'est une trahison. Et pour la plupart des gens, ils le voient comme une trahison. Puis, comblé à toute la douleur émotionnelle que ça peut causer, ben, on s'en remet rarement. Alors ça, c'est une des grandes causes de divorce. Puis, il y a des mariages ou des relations où il y a des conflits qui reviennent tout le temps. Tu sais, les chicanes n'arrêtent pas. Ça, c'est un indicateur fort que les problèmes sont profondément enracinés. Si on se dispute constamment sur les mêmes sujets, puis on trouve pas de résolution, ben ça conduit à des frustrations qui font souvent divorce.
ce qu'on appelle les pommes de discorde, hein, quand il y a, à un moment donné, il y a quelque chose, il y a un fruit, là, il y a quelque chose autour duquel les chicanes sont articulées de façon générale, là, ça c'est clair que...
On a un point, hein, faut mettre le doigt dessus.
C'est ça.
Et puis, dans ton couple, Simon, je vais te poser la question, est-ce que vous gardez encore des beaux moments d'intimité? Tu sais, des beaux moments pour vous deux, est-ce que vous faites des activités juste vous deux? Tu sais, est-ce que vous avez gardé ça?
Ça arrive de temps en temps. Oui, oui, un petit spectacle.
Moins que c'était dans le temps de la jeunesse.
Ben, tu sais, à un moment donné, je veux dire, avec les années, non, mais on en a, là, des fois, un petit souper au resto, des affaires comme ça. Oui. Peut-être qu'on pourrait en avoir davantage, mais...
Oui, ben, je te pose des petites questions, puis je veux t'aider. Je veux t'aider à améliorer le tout, hein. Mais est-ce que vous donnez, comme par exemple, des petits becs durant la journée? Tu sais, des petits becs rapides?
Oui.
Ça existe.
Oui. T'es en train de fouiller un peu mon intimité, mais c'est correct. Il n'y a pas de problème. Je veux dire, j'ai pas.
Non, mais ça, c'est supposé d'être devant tout le monde, les petits becs.
Oui, on n'a pas de problème. Mais on n'est pas du monde à se tenir la main, par exemple. Je vois ça des fois, des couples qui se promènent dans le centre d'achat ou encore qui sont en train de traverser le chemin. Tu sais, tu vois le petit bonhomme, oui. Il est là, puis il reste 3 secondes, 2 secondes. Puis plutôt que se lâcher la main puis courir pour traverser la rue, se dépêcher, ils se tiennent la main, là, tu sais, là, sont vraiment fusionnels. On n'est pas de même, nous autres.
C'est un trait de personnalité plus qu'autre chose.
Mais sais-tu quoi? On aime ça de même. On y va de même, toutes les deux. Tu sais, même qu'on trouverait ça un peu quétaine à rigueur si on se tenait la main à tout bout de champ. Ça fait que, ouais. Tu sais, on est deux. On s'entend bien sur bien des affaires. C'est pour ça, je pense, que le couple dure depuis un quart de siècle.
Ouais, ben c'est parfait. Donc, vous avez vos certains moments d'intimité quand même, là.
C'est ça.
Mais faut pas que le partenaire se sente négligé ou déconnecté non plus dans la relation. Donc, c'est important d'avoir ces beaux petits moments ensemble quand même. Et puis, avoir des attentes irréalistes. Ça, c'est une cause de divorce aussi. Parce que souvent, on entre dans le mariage avec des attentes irréalistes et dans ce temps-là, ça peut simplement décevoir. Hein, parce que la vie de couple, c'est pas toujours facile. Faut pas que les gens se disent « ça va être rose tout le long hein. ». Je pense que les gens qui sont mariés depuis longtemps doivent en témoigner. Il y en a des défis à surmonter si on veut rester longtemps avec quelqu'un. La réalité de la vie, ça correspond pas exactement à ce que tout le monde s'attend au départ. Et puis, il peut y avoir de l'insatisfaction. Mais en gros, faut se faire des attentes réalistes et savoir que tout ne sera pas parfait. Et la perte d'identité, ça arrive dans certains mariages, se sentir comme si une personne n'existe plus vraiment. Un partenaire, par exemple, qui tire vers le bas, ça arrive. Hein? Donc, des gens qui valorisent pas l'autre personne, puis on a l'impression qu'on a perdu notre identité qu'on avait lorsqu'on était plus jeune. Et tout ça, ben ça, c'est une cause de divorce également. Ça peut faire qu'une personne se sent prisonnier dans le mariage, puis qu'elle veut s'en aller. Puis autre chose, je vais finir bientôt là avec les deux autres causes de divorce principales, les gens qui se sont mariés très jeunes.
OK.
Tu sais, quand c'est très, très jeune, un âge précoce, pour beaucoup de jeunes couples qui n'ont pas encore pleinement développé leur identité, puis leurs finances, hein. Des fois, on n'est pas rendu à un jeune âge, on n'est pas encore à l'aise financièrement. Mais là, ils peuvent facilement se sentir submergés par les nouveaux défis lorsqu'ils sont mariés. Les problèmes qui ne sont pas résolus, ben ils grandissent. Puis là, ça finit par être incontrôlable. Puis, la différence de comment élever les enfants.
Ah,
ça, il faut s'entendre aussi.
Oh boy!
Parce que là, quand il y a des divergences là-dedans, il faut admettre que pas facile de s'en sortir. Hein.
C'est ça.
C'est tout un obstacle, ça. Alors, les styles parentaux, qu'on va dire. S'il y en a un qui veut élever ses enfants d'une façon, l'autre n'est pas d'accord, ça peut aller jusqu'au divorce. Puis malheureusement, ça peut affecter le bien-être de l'enfant en plus.
Ben, c'est clair.
Du mariage. Donc ça, là, entendez-vous. Et peut-être avant de vous marier, tu sais.
Oui, puis avant de faire des enfants, clairement, si t'es quelqu'un qui est laxiste, puis que c'est beau les enfants, puis laisse-les faire, vont s'épanouir, puis vont faire leurs erreurs, puis tout ça, puis que l'autre partenaire c'est quelqu'un de très strict, très rigoureux, qui a été élevé par des parents qui étaient vraiment, tu sais, comme au doigt pis à la baguette. C'est clair que faire des enfants ensemble, là, ça risque, vous allez probablement frapper un mur.
Oui, le divorce peut même sonner à la porte après longtemps. Puis en plus, ça laisse un problème qui continue, là, parce que t'as beau divorcer, tu sais que l'autre côté va encore élever son enfant d'une façon que t'es pas d'accord. Là.
Et voilà.
Non, pas évident. Alors voilà pour les principales causes de divorce. Alors on y va avec maintenant comment vraiment avoir un mariage sain, durable ou une belle relation. Ben, premièrement, la communication, là, on l'a dit que c'est une des principales causes, là, c'est de manquer de communication. Alors, faut que ce soit ouvert. Encouragez des conversations honnêtes aussi, hein. Soyez honnête avec la personne que vous aimez. Et on va bâtir une belle relation confortable à travers ça. Puis la transparence financière. Parce que quand on parle, là, de cacher des dettes, ça, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Ça se peut qu'on ait des problèmes, ça se peut qu'il y en ait que des dépendances ou des choses, mais ne le cachez pas. Soyez transparent dans un couple si vous voulez que ça aille bien. Autant les économies, les habitudes de dépenses, parce que on va éviter beaucoup de conflits comme ça. C'est bon de savoir à quoi s'attendre, hein, pour éviter le divorce. Alors, travaillez ensemble en couple pour atteindre vos objectifs financiers, puis budgétisez aussi d'une façon qui convienne aux deux personnes. C'est vraiment important. Puis, quand je parlais d'intimité, faut vraiment donner la priorité qu'on dit, les experts en philosophie du mariage que j'ai lu, ils disent de donner la priorité à l'intimité, bon, autant émotionnelle que physique, ce serait la clé pour que les mariages durent. Alors, c'est bon de réserver régulièrement du temps pour des petites soirées en amoureux, des marques d'affection et d'avoir des bonnes conversations. Bon, et puis, les compétences de règlement de conflit, ben ça en prend. Comme par exemple, il y a des techniques saines qui existent de règlement de conflit qu'on peut apprendre. Dans des épisodes passés, on a parlé de certaines petites phrases à utiliser pour désamorcer des conflits, des choses comme ça. Ben, je vous invite à les réécouter. Mais au lieu de se concentrer sur la victoire dans les combats, là, faudrait se concentrer sur la recherche de solutions où les deux personnes peuvent être heureuses. N'oubliez pas qu'on est une équipe. Hein? Puis surtout quand on est marié, faut voir ça comme une équipe et favoriser le travail d'équipe. Alors, avoir des objectifs et des valeurs partagées, ben c'est sûr qu'avant de se marier, hein, c'est bon d'en parler, ou avant d'entreprendre une relation, aller dans la même direction. Et puis, deux personnes qui partagent les mêmes idéaux, ça va tellement bien. Quand on parle de rêves là, ou des objectifs de carrière ou les plans pour la famille, ben l'idéal, c'est de discuter de ça tôt. Tu sais, genre, quasiment premier souper, la première date. Parler de ça quand vous voulez entrer en couple, c'est un des meilleurs sujets pour vous faire une idée. Puis le respect, les appréciations mutuelles, faut pas être paresseux dans une relation. Alors, montrer des expressions régulières de respect, montrer à l'autre que vous l'appréciez, reconnaissez ses contributions et ça va bien aller. Et puis, je sais pas si toi, tu es quelqu'un de compromis, Simon. Moi, je m'étais souvent dit, je ne veux pas faire de compromis. Moi, je m'étais dit en relation, là, wow, là, s'il faut commencer à faire des compromis, là, je serais pas heureux. Je veux une relation qui marche, qui fonctionne. Mais
c'est
bon.
C'est très important, la compromission dans un couple. Ouais. D'être capable de dire à un moment donné, moi, personnellement, en tout cas, OK, c'est correct, là, on va faire ça plutôt que ça. Parce que, tu sais, il faut, à un moment donné, faire chacun son bout de chemin pour essayer de se rejoindre à quelque part. Parce que, moi, en tout cas, c'est mon opinion, si tu es tout le temps campé chacun de son côté sur des sujets fondamentaux comme, par exemple, je sais pas, moi, le réaménagement de la maison, tu sais, des affaires quand même qui sont importantes dans une vie au quotidien, my God, tu vas avoir un mariage qui va être assez malheureux, là.
Ouais, ben il va falloir que je travaille là-dessus. Moi je semblais peu flexible, là, je pense. Là. Moi, j'aimais mieux mettre un terme à une relation si je pense qu'il faut faire trop de compromis, mais je pense qu'il va peut-être falloir que je mette de l'eau dans mon vin. Hein.
Ben non, mais à un moment, ce que je veux dire, c'est pas nécessairement de passer son temps à faire des compromis, mais d'être capable de céder un pouce à quelque part, là, c'est ça. Là.
Mais t'as raison, parce que c'est ça que les professionnels disent. Hein. Mais bon, croissance et indépendance individuelle, c'est important, hein, soutenir l'autre. Tu sais, que si l'autre a des projets, des rêves, tout ça, là, on le soutient dans sa croissance personnelle et c'est bon de renforcer la relation d'un côté comme de l'autre. Alors, encouragez-la, la personne que vous aimez, à poursuivre ses rêves, ses objectifs, ses intérêts. Et puis, ben, en dernier lieu, je vais terminer avec ça, c'est simplement si votre mariage va mal ou votre relation va mal et vous voudriez que ça dure, ben, pourquoi pas demander de l'aide professionnelle? Ça existe. C'est vraiment une des bonnes choses à faire, une thérapie des mariages. On voit ça beaucoup dans les films. Mais regarde, pourquoi pas l'essayer si vous voulez demander de l'aide? Ça peut pas nuire, hein? Ça peut simplement vous donner un coup de l'avant. Puis des fois, ben ça pourrait le régler votre mariage et vous enligner vers la bonne chose. Mais en considérant tous les petits points qu'on a dit aujourd'hui, là, vous favorisez, vous mettez les chances de votre côté pour avoir un beau mariage qui dure toute la vie. Donc, pourquoi pas?
Ouais, si ça va mal, faites comme Guy puis Sylvie, un gars, une fille qui allait voir à tout bout de champ un thérapeute pour essayer d'exorciser leurs problèmes ou je sais pas trop, mais en tout cas, c'était bien fun. Merci Sébastien. On a les causes de divorce, on a les bonnes façons de préserver un mariage. Puis dans un instant, on va mettre de la couleur dans cette fin d'émission parce qu'on a un quiz
qui va être
assez coloré, hein, c'est ça?
Assez coloré et dans le but de te surprendre, de t'apprendre des choses. Eh bien, c'est sûr, j'aime bien quand tu réussis pas trop mes questions, qui sont difficiles, mais bon.
On va essayer de me piéger, de piéger les gens qui sont en train de nous écouter également. Restez branchés, c'est peu contenir des infos. Dernière portion dans un moment.
Quiz.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Le quiz.
Le quiz.
On s'attaque à notre désormais célèbre quiz pour finir l'émission et on va mettre de la couleur dans votre univers.
Ah oui, oui, et Simon, c'est toi qui sera le cobaye de réponse au quiz aujourd'hui. Et les gens, ben, je vous invite à participer, noter le nombre de bonnes réponses que vous aurez. Je vais donner des choix de réponses. Et puis, il va y avoir des questions faciles, des moyennes, des difficiles. On va en avoir pour tous les goûts. Je garde le thème, mais les questions vont varier dans toutes sortes de sujets pareils. Alors, tu vas pouvoir aussi, on va voir, on va tester un peu ta mémoire. Toi, tu m'avais fait ça l'autre fois, me faire un quiz sur un sujet dont on avait parlé dans l'émission, la compagnie de la baie du son.
Ben oui.
Puis, ben, c'est ça. Ben, moi aussi, je vais te faire des petits parallèles avec des choses dont on a déjà discuté, mais très peu. Mais il va en avoir quelques-unes, dont la première question. À l'échelle de la planète, Simon, quel est le pourcentage de personnes aux yeux bleus? On avait parlé des yeux. Est-ce que c'est? Je vais te donner quand même un choix de réponse. Oh. 10 % 20 % 30 % ou 40 %
Je pense que c'était 10 % si je ne me trompe pas.
Bravo, bravo. Ben oui, parce que c'est rare. On se rappellera que c'est rare, les yeux bleus. Au Canada ou en France, des pays comme ça, là, le taux est plus élevé. On a comme 30 % ici de personnes aux yeux bleus. France, c'est à peu près la même chose. Mais si on regarde en Asie, en Afrique, c'est beaucoup plus rare. Donc, la moyenne, c'est 10 % Mais il y a des endroits dans le monde qu'on monte jusqu'à 30 % comme ici. Deuxième question, de quelle couleur, attention là, le pantalon d'Astérix? Astérix le Gaulois.
Oui.
Ben, je te donne un choix de réponse. Est-ce que le pantalon d'Astérix est jaune? Est-ce qu'il est brun, rouge ou bleu?
Ben, je pense qu'il est bleu.
Mais non!
Il est rouge, d'abord.
Non, il est rouge, le pantalon d'Astérix. Et moi, je le savais bien, parce que Obélix, lui, a un pantalon à rayures bleues et blanches.
C'est ça. C'est là que je me suis mêlé.
Il ne faut pas se tromper avec Obélix. Mais oui, Astérix, c'est vraiment un pantalon rouge. Oui, puis il y a son costume qui est très... Il y a une petite chose noire aussi, là.
Ceinture, je ne sais pas trop.
Oui, il y a une espèce de ceinture, tout ça. Mais son pantalon est vraiment rouge, comme des leggings, on dirait. Là. Un petit pantalon serré qu'il y a Astérix. Bon, ben voilà. Alors, quand je te disais, là, c'est sur les couleurs, mais ça va aller d'un sujet à l'autre. On va avoir beaucoup de plaisir.
Il y a de l'observation pas mal, oui.
OK. Complètement un autre ordre d'idée. Quel est le nom d'une collection française de livres jeunesse qui a été créée en 1923? C'est des livres d'action et un petit peu de peur aussi, de frissons. Mais c'est une collection française de livres jeunesse créée en 1923. Est-ce que c'est la Bibliothèque bleue, la Bibliothèque rouge, la Bibliothèque rose ou la Bibliothèque verte?
J'ai jamais entendu parler de ça. Ah, vois-tu. Bibliothèque verte. Moi, dire Bibliothèque verte.
Ben, tu l'as eu.
Ah oui, hein?
Ben, sur quatre, c'est Bibliothèque verte. Pour moi, ton inconscient l'avait vu quelque part. Ça existe encore, cette collection-là. Ça a été commencé en 1923. Puis c'est eux qui ont les titres comme Picsou. C'est eux qui font les Naruto, les Pokémon.
Eh ben.
Ben oui, c'est Bibliothèque verte.
Eh bon, ben.
C'est une collection française de livres jeunesse. OK, de quelle couleur est la pierre de Péridot? On l'appelle aussi olivine, cette pierre-là. OK, ben, de quelle couleur elle est? Est-ce que c'est orange, verte, violette ou blanche?
Je dirais orange.
Ah, t'aurais dû garder ton verre de choix.
Ah oui, hein, le verre, ben coudonc.
Ouais, c'était vert. C'est un bijou, donc, qu'on nomme aussi olivine. Le péridot, c'est une pierre fine, on dit semi-précieuse parfois. Et c'est de la série, comme l'olivine, c'est isomorphe. Connu et apprécié pour sa couleur vert très, très vif, le péridot. Okay. Puis, c'est dû au fer qui est présent dans la composition chimique de la pierre. Hein. On comprendra que le brocoli, c'est vert, puis il y a beaucoup de fer. Ben, les pierres aussi.
Puis, j'aurais peut-être dû me laisser inspirer par ton olivine, là, puis couleur olive, m'en aller dans le vert, hein, peut-être.
Ah, il y avait des petits indices cachés. Eh bien, c'est un des rares bijoux qu'on retrouve dans une seule couleur, d'ailleurs, Péridot. Il y en a souvent qu'on retrouve dans plusieurs couleurs, mais ça, c'est toujours vert, et d'un vert très vif. OK, de quelle couleur est opposée quelle couleur est opposée à l'orange sur un cercle chromatique? Autrement dit, là, la couleur complémentaire.
Complémentaire, oui.
Est-ce que la couleur complémentaire ou orange, est-ce que c'est le bleu, le rose, le vert ou le rouge?
Je dirais le bleu.
Ben oui.
Probablement. Oui, hein, c'est ça.
Ben oui. Le rouge, sa couleur complémentaire, c'est le vert. Le jaune, c'est le violet. Et puis, le orange, c'est le bleu. Alors voilà, de quelle couleur sont les nuances qu'on appelle cobalt, chrome et soufre. C'est la même couleur pour les trois. Alors, cobalt, chrome et soufre, est-ce que c'est vert, violet, bleu ou jaune?
Je dirais jaune, probablement, non?
Oui!
Oui, ah oui. Hein.
Oui, okay. Puis c'est lequel, cobalt, chrome ou soufre, qui t'a donné la puce à l'oreille? Peut-être soufre?
Je sais pas, j'essayais de me... Ouais, c'est ça, c'est... J'essayais de voir un peu, ouais, mais probablement
soufre,
le soufre.
Soufre, c'est
ouais.
Jaune, hein, puis... Ouais. Ben, c'est ça, cobalt, chrome, soufre, c'est jaune. OK, de quelle couleur sont les nuances qu'on nomme de cette fois-ci persan, acier ou pan? Pan comme P-A-O-N, l'oiseau.
Oui, oui.
C'est de quelle couleur ça? Persan, acier ou pan? Est-ce que c'est rouge, rose, bleu ou vert?
Ça, c'est bleu.
Bravo! Ouais. On reconnaît ces mots de couleur, mais c'est sûr qu'avec trois mots, hein, ça aide. Si j'avais juste dit, mettons, persan, c'est peut-être un petit peu plus difficile.
Ben, c'est l'acier. C'est l'acier là, qui m'a... c'est ça, bleu, acier, ouais.
Puis le PAM aussi me faisait penser à bleu.
Ouais.
Mais oui, donc c'est bleu. Huitième question. Dans quel pays se situe la montagne aux sept couleurs? Sais-tu ce que c'est, la montagne aux sept couleurs? L'as-tu déjà vu?
T'as pas partout.
On l'appelle aussi la Rainbow Mountain. C'est vraiment couleur arc-en-ciel. Là. Il y a de belles couleurs. Je t'en reparlerai un petit peu. Mais dans quel pays elle se situe? Est-ce que c'est le Pérou, l'Espagne, l'Algérie ou l'Australie?
Là, je vais vraiment, mais vraiment prendre une chance.
Et c'est vraiment une difficile, il faut l'admettre.
Je vais y aller maintenant avec l'Australie. Il y a assez d'affaires bizarres, là.
Non, c'était le Pérou.
Ah, le Pérou, OK.
Oui, c'est en Amérique du Sud, une montagne de 5200 mètres. Elle est vraiment belle. Hein? C'est au cœur des Andes péruviennes. C'est la montagne Vinicunca, qui est aussi appelée, comme je te disais, la montagne arc-en-ciel, ou Rainbow Mountain en anglais. Et Montaña de los Siete Colores, en espagnol. Hein, la montagne qui est pleine de couleurs, quelque chose comme ça.
Bravo pour ton espagnol.
Moi, je ne parle pas espagnol et c'est tout à fait... il devait avoir des erreurs dans le peu que j'ai dit, là. Mais c'est une magnifique montagne au Pérou, dans la région de Cusco. Puis si vous regardez les photos là, de la montagne arc-en-ciel, Rainbow Mountain, c'est vraiment beau. C'est des petites strates, une par-dessus l'autre, puis on voit vraiment du bleu-rose, tout ça, puis les belles couleurs de l'arc-en-ciel. Très, très beau. Grosse montagne. Question numéro 9. Quelle est la couleur du sang des pieuvres? Est-ce que les pieuvres ont le sang comme nous, rouge? Bonne question, hein? Est-ce qu'il est orange, le sang des pieuvres, rouge, jaune ou bleu?
Il est bleu.
Il est bleu! Ben, bonne réponse. On voit que là, tu le savais. Je te voyais faire des signes de la tête en voulant dire, il va la nommer, la couleur bleue, il va la nommer. Les crustacés, les pieuvres, les poulpes ont le sang de couleur bleue. Ou même, en fait, il est blanc. La plupart du temps, il est blanc. Mais c'est au contact de l'oxygène, s'il sort, puis il est au contact avec l'air, il devient bleu. Numéro 10. Quelle est la couleur du chien Clifford, qui est un héros d'un film de Noël qui est sorti en 2021?
Qui est rouge.
Bravo, hein, tu l'as vu.
Le Big Red Dog, c'est ça?
Pour moi, t'as des enfants. Hein, c'est ça. C'est...
Ben, coudon, tu sais, on l'a regardé, le Big Red Dog, là, Clifford, le chien, ben oui.
Bon, OK, moi, j'avais pas vu ce film-là, mais je sais que c'est un énorme chien rouge, c'est ça. C'est un chien géant qui est offert par un magicien dans le film, là, quelque chose comme ça. Alors, bon, ben bravo. Je me demandais si t'aurais celle-là. Je me disais, il saura pas ça. Ben oui, quelqu'un qui a des enfants a vu des films de Noël. Avec un gros chien.
Il y avait même une série, je pense, si je me trompe pas, de Clifford le chien.
Ah, c'est possible. Moi, je le connais pas. Je le connais pas. Puis j'ai découvert ça là, quand je cherchais les. J'ai vu le gros chien rouge. Bon, pourquoi pas? OK. Quelle est la couleur associée à la marque automobile Renault? Hein? On fait des petits parallèles avec des émissions passées. On avait parlé des marques. J'avais fait un quiz sur les marques automobiles. Mais là, seulement la couleur associée à la marque automobile Renault, est-ce que c'est rouge, bleu, jaune ou vert?
C'est bleu ou jaune. Entre les deux, j'hésite, mais je pense que c'est bleu. Je dirais bleu, probablement.
Malheureusement, c'est jaune. T'étais bon avec tes deux. Le logo de la marque a longtemps été jaune. OK? Ça veut pas... Mais le fameux losange, là, qui est le losange Renault, il est sur un fond jaune. Puis en Formule 1, les voitures Renault sont majoritairement jaunes aussi.
Okay.
On met les voitures complètement jaunes. Donc, on va dire que c'est la couleur associée à la marque Renault. Et si on reste dans le jaune, je vais te donner différentes définitions pour l'expression « rire jaune ».
OK.
On y va. Qu'est-ce que ça veut dire « rire jaune » Est-ce que c'est le rire des Asiatiques? Est-ce que c'est rire de manière exubérante? Est-ce que c'est rire de colère? Ou est-ce que c'est rire de soi-même?
Ah, rire jaune, c'est rire de colère.
Bravo! J'aurais pensé que tu aurais dit, est-ce que c'est pas rire hypocrite? Hein? Rire jaune, c'est rire, mais en fait, c'est rire de colère, c'est on rit quand quelque chose nous avait fâché. Ben oui, pour masquer une émotion négative, hein, colère, gêne, le fait d'être vexé aussi, on va le cacher avec un petit rire, là. Mais la seule définition, la seule définition qui collait, c'était rire de colère dans celle que je t'ai donnée. Donc, c'était la bonne réponse. Bravo! Je pensais que tu serais peut-être trompé avec rire de soi-même. Ou
Non,
c'est vraiment rire jaune, rire de colère. OK, de quelle couleur est la pomme dans le célèbre tableau « Le fils de l'homme » de Magritte? C'est une toile, puis on voit un homme qui c'est une toile très populaire, puis l'homme, il a une pomme devant le visage. Est-ce que la pomme est rouge, jaune, verte ou noire?
Je dirais noire.
Elle est verte, donc tu n'as pas vu le tableau, hein, ça te dit rien?
Non, absolument pas.
Ça date de 1964, un homme avec un chapeau puis une pomme verte devant le visage. OK, ben on va y aller avec... est-ce que j'ai le temps pour deux dernières questions?
Oui, vas-y vite.
On y va vite. Quel est le nom du système de couleurs utilisé par les imprimeries? Est-ce que c'est CMYK, RGB, HEX ou Pantone?
CMYK.
Oui, parce que ça désigne les quatre couleurs primaires de l'imprimante. Tu savais, le C, c'est pour?
Je sais pas.
Non, tout c'est pour cyan, qui est
cyan,
le bleu.
OK.
Ouais.
Okay.
Le rouge?
Magenta.
Magenta, le M pour rouge. Ensuite, le Y, c'est anglais, yellow.
Yellow, OK.
Pour le jaune. Puis le K, ben, c'est la lettre qu'on utilise pour le noir, pour pas mettre B, qui est déjà utilisé pour bleu. Okay. Pour black, c'est le K à la fin. Donc, C-Y-M. C-M-Y-K, ouais. C'est le code. OK, puis dernière question, la couleur la plus courante des fleurs de myosotis. Une difficile, le jaune, le bleu, le rouge ou ou blanc?
Le blanc, probablement.
Et c'était bleu.
Ah, c'était bleu.
C'est l'incarnation de la fidélité. Tu sais, c'est les petites fleurs là avec un petit point jaune au milieu qu'on en voit souvent partout.
Oui,
c'est
en
grappe là, de petites fleurs bleues.
Oui,
c'est
le
myosotis.
OK.
Et puis, d'ailleurs, c'est le symbole de la Journée internationale des enfants disparus qui sera le 25 mai. C'est la date qui a été fixée pour la journée. Et puis, aussi le myosotis qui est devenu symbole de la société de l'Alzheimer et celui du génocide arménien qui est survenu pendant la Première Guerre mondiale.
Ben merci, très instructif. On a appris sur les couleurs en même temps qu'on s'est dit.
Plein de sujets, c'est ça.
C'est ça. Hein? Neuf bonnes réponses que j'ai eues au tout à
l'heure. Ah, ben ça passe avec en haut de 70%. Bravo.
J'ai pas compté le nombre de questions en tout et pour tout, là, mais 9.
Il y en avait 15.
Ah, il y en avait 15, bon, ben.
9 sur 15, c'est très bon.
Merci, Sébastien. On va se retrouver la semaine prochaine pour une autre version de Peu contenir des infos.
Oui, ça va me faire plaisir.
Absolument. Vous autres aussi, mesdames, messieurs, soyez des nôtres la semaine prochaine pour un autre rendez-vous. Et d'ici là, ben, salut, portez-vous bien. Merci.